Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Temps Additionnel, votre rendez-vous sport de la semaine. J'espère que vous allez bien, en tout cas, votre présentateur préféré, il va très bien. On a de bonnes nouvelles au menu aujourd'hui. On aura le TEF, évidemment, qui nous surprend. Le Stade qui commence à rouler sur le top 14. Les premières impressions des Formule 1 pour la saison 2024. Et aussi des nouvelles de nos handballeurs du Phoenix. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, toujours en compagnie d'Alexandre, pour nous donner toujours des infos très pertinentes. Comment ça va, Alex ?
Salut Raphaël, très bien, toujours présent pour aborder les sujets marquants de la semaine. On va beaucoup parler du TFC aujourd'hui, mais bien sûr, on n'oublie pas le reste.
Comme tu l'as dit Alexandre, on va d'abord parler des deux matchs du TFC pour commencer cette rubrique. On a eu le retour de la Ligue des Champions, bien évidemment, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est nos violets et l'Europa League. Le TFC se déplaçait dans la magnifique enceinte du Stade de la Luz pour y affronter son propriétaire, un des grands d'Europe, le Benfica Lisbonne, dans un match d'anthologie. Le match pourtant avait mal commencé pour nos violets, avec un pénalty provoqué par Logan Costa d'une main dans la surface, et au mental et avec une envie débordante d'aller accrocher l'exploit à Lisbonne, nos violets recollent au score grâce à une magnifique demi-volée de Dessler à la 75e minute. Mais malheureusement, c'est le coup de massue pour le TEF à la 8e minute du temps additionnel. Ils encaissent un nouveau pénalty, encore une fois transformé par Di Maria. Score final donc 2-1 pour Benfica dans un match où le suspense nous a porté jusqu'aux dernières secondes de la rencontre. Ce qu'on retiendra donc, je pense, de mon côté, c'est l'envie débordante de nos violets pour aller déranger ces Lisboètes. Envie qu'ils réussissent à nous montrer, hein, d'ailleurs, tous les soirs de Coupe d'Europe, comme on l'a vu aussi contre Liverpool à domicile, lors de la victoire 3-2 il y a 2 mois. Donc performance donc qui contraste avec notre visage aussi en championnat.
Alors c'est quand même étonnant de voir cette saison un TFC à deux visages, l'un qui galère en Ligue 1 et l'autre qui fait un parcours remarquable en Europa League. Affronter le Benfica a été un véritable défi pour le TEF parce que en début de saison, alors... Il faut savoir que Benfica jouait la Ligue des Champions. Le Benfica n'avait pas réussi à s'imposer dans son groupe. On l'a vu contre l'Inter Milan et la Real Sociedad. Je retiens un match en particulier. Le Benfica affrontait à domicile l'Inter Milan. Et justement, le Benfica menait 3-0, mais s'est fait surprendre en deuxième période par l'Inter en revenant à 3 buts partout. Match de fou, honnêtement. Donc le Benfica devait battre le dernier, Salzbourg, pour espérer au moins de participer en barrage d'Europa League.
Comme tu l'as dit, on voit une équipe de Benfica donc en difficulté en Europe, hein, contrairement au TEF, et c'est ça peut-être qui a fait que la rencontre s'est emballée de tous les côtés, au niveau des supporters, on a entendu quasiment que les Indians dans le stade, on l'avait mentionné la semaine dernière, il y avait peut-être une méconnaissance des joueurs de Benfica du jeu de l'équipe toulousaine. Au vu de leurs derniers résultats, c'est sûr que Toulouse est assez imprévisible.
Ah oui, en plus 3500 supporters, je crois que c'est le plus gros déplacement que le TFC a fait de son histoire, c'est impressionnant. À Lisbonne, on les a vraiment entendus, les Indians.
Alexandre, toi, t'en as pensé quoi du niveau de jeu de ce match? Parce que on s'attend quand même à une rencontre européenne, donc on veut ton analyse.
Alors c'est vrai qu'on a réussi à tenir tête, mais on n'a pas su concrétiser quand on avait des occasions de but. Je veux dire, sur les côtés, le ballon circulait bien, mais les joueurs du TEF ont préféré rester prudents en faisant des passes en retrait à la place de tirer en bon moment. Du coup, le Benfica avait toujours le dernier mot. Le but de Mikel Dessler à la 75e, qu'on se le dise, j'ai eu l'impression qu'il a été surpris de marquer. Mais une semi-reprise de volée sur un match avec une pression européenne ajoute vraiment de la beauté dans son geste.
C'est là où je pense aussi qu'on a aperçu une différence technique entre les deux équipes, hein, au niveau de la construction, du jeu ou des occasions tentées. Mais comme quoi, ça le prouve dans le foot et dans le sport en général, avec plus d'envie que l'adversaire, malgré la défaite, l'exploit reste envisageable. Et je suis sûr que du côté des supporters toulousains, ce match n'a même pas été perçu comme une défaite, mais comme une victoire de ramener un score si bas face à une équipe avec une renommée internationale folle. Donc l'exploit reste envisageable au stadium pour moi. En tout cas, moi j'y crois au vu de ce qu'ils nous ont montré ce jeudi et au vu aussi de ce qu'ils nous ont montré ce week-end face à Monaco. On y vient donc à la victoire princière du Toulouse Football Club ce dimanche à 15h face aux joueurs de l'AS Monaco. On attendait des Toulousains affaiblis de toute l'énergie laissée sur la pelouse du Stade de la Luz jeudi dernier, mais comme répété précédemment, cette équipe, elle est vraiment imprévisible. Victoire 2-1 de nos violets sans démériter face à des monégasques privés de Ben Yedder, de Golovin et donc privés de leur principale animation offensive, et ça s'est vu sur le rocher. Le but monégasque, il vient d'une séquence pleine de coups de billard, assez brouillon pour revenir recoller. Le TFC a un partout en deuxième mi-temps, on le rappelle. Le premier but du TFC, il est sur coup franc, plein de vis du capitaine Vincent Siro qui vient tromper le portier monégasque. Puis le but du 2-1 sur un corner, on peut dire, Très mal tiré de ce même Vincent Sirot qui vient trouver, assez aléatoirement, le pied de Logan Costa qui vient mettre le ballon au fond des filets. Un but de Costa sur corner, moi ça me rappelle des souvenirs d'un certain 29 avril 2023 au Stade de France. Victoire donc, la troisième d'affilée à l'extérieur, ça n'était pas arrivé depuis 10 ans, ça fait donc très plaisir et nous met donc en pleine confiance pour créer l'exploit demain au Stadium. Pour info, Benfica a aussi écrasé Vizel 6-1 ce week-end en Liga Portugal. Donc j'ai très hâte d'ailleurs avec Alex, on y sera pour vous. On essaiera de vous rapporter des interviews en direct du Stadium pour vous retransmettre au mieux l'événement. Avant de passer quand même à la prochaine rubrique, un point classement, Monaco qui pouvait accéder à la deuxième place du championnat avec un simple match nul, reste donc quatrième de Ligue 1. Nos violets, quant à eux, remontent et ne sont plus qu'à 2 points du top 10, mais restent également à 1 point du premier non relégable. Donc méfiance pour les coéquipiers de Guillaume Rest.
Enfin, ça fait plaisir de voir le TEF gagner, surtout contre l'AS Monaco, le quatrième de Ligue 1. Bon, avant le match, je me suis dit qu'on ne va pas faire grand-chose contre Monaco, sachant qu'on a perdu en décembre au Stadium contre eux, que nos résultats en Ligue 1 ne sont pas terribles. Mais j'avais quand même de l'espoir pour cette équipe, parce qu'on aborde mieux les matchs à l'extérieur qu'à domicile, que Wissam Ben Yedder, Brel Mbolo et Alexander Golovin ne jouaient pas car ils étaient suspendus. Donc ça laissait vraiment une opportunité au TEF de s'imposer. Bon match du TEF dans l'ensemble, mais on s'est fait peur. On s'est fait peur avec le but de Akliouche pour réduire l'écart et la faute sur Takeshi Minamino. Ça m'a vraiment fait peur, cette faute. Parce que il cherchait à provoquer un pénalty, si tu veux. Mais juste, je vais rajouter un truc, c'est du jamais vu quand même. On établit un record de 3 victoires à l'extérieur d'affilée, mais aussi 3 défaites à domicile. Je crois qu'il y a un problème avec le Stadium, non? Je sais pas ce que t'en penses, Raphaël, mais...
Moi, je pense qu'il y a un gros problème de pression. Après, je les prends, ces victoires. On a vu surtout, je pense, un collectif, mais il y a eu beaucoup d'individualité aussi. Du côté de Vincent Sirot, on a vu aussi Christian Mawissa qui était quand même assez solide. Donc, t'as noté quelques points sur les performances individuelles?
Oui, bah déjà, j'ai été surpris de voir le coup franc de Vincent Sirot tiré loin de la surface de réparation. C'est rare de le voir marquer sur ce genre d'occasion, mais aussi de la chance, parce que le gardien de Monaco ne l'avait pas vu venir. Dans ce match, Thaïs Dalinga et Kamandzit est transparent pour moi, donc c'est plutôt logique que CMN les a remplacés. Mais dommage, je n'ai pas vu Nicolas Smith jouer, je pensais qu'il était opérationnel, surtout après une longue période compliquée où il ne jouait pas les matchs suite à des problèmes personnels. Mawissan n'a pas retenu la leçon, encore une fois un carton jaune, mais je pense qu'il fera moins de fautes à l'avenir. Voilà, j'espère que cette victoire à l'extérieur va donner de la motivation et de la confiance pour le prochain match face au LOSC au Stadium. Mais qu'on se le dise, Raphaël, on est surtout impatients, oui, pour le match retour d'Europa League qui aura lieu demain, le fameux jeudi des grands soirs, monsieur.
Exactement, Alexandre, t'as tout dit. On vous tient au courant jeudi. Je le répète, on sera sur place, on agrémentera d'interviews pour vous faire vivre au mieux la rencontre mercredi prochain. On va passer désormais à la victoire du Stade Toulousain face à Yona, 61 à 34, remontada du Stade Toulousain au classement, qui passe en un mois de 4e à 2nd ex aequo avec le Stade Français. Ça fait plaisir, depuis qu'on a fait cette émission, le Stade enchaîne les succès, et en plus avec la manière, comme nous le montre le dernier match face à Yona, 61-34, des rouges et noirs dans un festival du demi de mêlée, Paul Graou qui va venir planter 4 essais pour son équipe. Un numéro 9 magistral donc du côté toulousain, plein de vis et de flair pour venir assommer les Oyomens dans la Ville Rose. Je retiens aussi quand même la course de Mathis Lebel, le meilleur marqueur toulousain cette saison, nous a encore prouvé. Pourquoi il est le meilleur tout simplement. Un crochet dévastateur pour venir s'offrir la route de l'embut d'Oyonnax, victoire donc des rouges et noirs. Prochain match face au 8e du top 14, ce sera Clermont chez eux le 25 février. Au stade Marcel Michelin.
C'est vrai que c'est un beau match, hein. Beau match du stade qui a su renverser la vapeur dès le début après le premier essai d'Oyona. Quelques Toulousains qui participent aux 6 nations étaient en rendez-vous, comme Ange Capuazzo et Alexandre Roumat. Dupont et Baye n'étaient pas sur la liste, c'était pas l'équipe type, mais sans conséquence puisqu'on s'est imposé avec 30 points d'écart et avec un Paul Graou qui nous a régalé. Par contre, j'ai vu des lacunes en défense, on s'est pris 5 essais par le dernier du top 14 quand même. Mais sinon, parlons de Paul Graou. Il a été le métronome de cette victoire. En plus, élu joueur du match, j'ai bien aimé comment il utilisait les ouvertures de Yona. Mais bon, en tout cas, faudra aller chercher une victoire à l'extérieur contre l'ASM Clermont qui va devoir se passer de son demi d'ouverture Anthony Bello et de son pilier Étienne Falgou blessé. On ne va pas jouer avec l'équipe type parce que le 15 de France affronte au même moment l'équipe d'Italie de Capuazzo qui, on va pas se mentir, s'améliore chaque année. Je retiens un match contre le 15 de la Rose au Stadio Olimpico de Rome, où la Nazionale n'était pas loin de faire un exploit face aux demi-finalistes du dernier mondial. Exceptionnel l'Italie. Bon, ce ne sera pas non plus un niveau top de l'Italie, mais il s'améliore. Donc j'attends avec impatience les 6e de finale, surtout, hein, très important, de Champions Cup, Stade Toulousain Racing, Ernest Vallon, le 7 avril. Ça va être le feu.
Ça va être le feu, effectivement, et on le rappelle, le Racing a perdu son dernier match de championnat, donc ça va être très intéressant. Toulouse en forme qui enchaîne les victoires contre un Racing un peu plus mal en point. Un classement d'abord top 14 avec le Stade Toulousain qui revient à égalité avec le Stade Français. Le premier et le deuxième de top 14 vont donc se départager la première place tout au long de cette fin de saison. Le Racing, le prochain adversaire du Stade Toulousain, pointe à 40 points, quatrième, vient de perdre. Donc c'est de assez bon augure pour nos stadistes.
Je tiens à me pencher sur la performance du Stade Rochelais, 9e du top 14 sans ses titulaires indiscutables qui disputaient le tournoi destination. Je pense à Winnie Antonio, Joe Danti, Paul Boudéan et malheureusement Greg Aldrit, forfait, qui est sorti sur blessure contre l'Écosse. Donc voilà, le fait de voir le vainqueur 2023 de la Champions Cup mal classé a forcément fait réagir le coach Ronan O'Gara qui, on va pas se mentir, a lâché une pique en conférence de presse. Il a fait du O'Gara. Donc après la défaite contre Lyon 28 à 17, c'est la 8e défaite des Rochelais. Est-ce que c'est la défaite de trop ? Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti. Enfin, en tout cas, dans ses propos, je cite « Ils ont plus regardé l'immobilier à La Rochelle et dans l'île de Ré que l'entraînement. » C'est du O'Gara. Ce n'est pas la joie côté Rochelais, en tout cas.
Cette semaine, on a aussi la reprise des essais hivernaux en Formule 1 ce mercredi. Donc c'est aujourd'hui que reprend la Formule 1. Les essais hivernaux ont débuté aujourd'hui à Bahreïn, l'occasion de voir rouler les voitures pour la première fois de la saison de manière officielle, pour avoir un aperçu de qui dominera le championnat, qui aura trouvé le meilleur concept de voiture, qui aura aussi déçu. On attend beaucoup de McLaren, qui avait fini la saison 2023 plutôt positivement. On attend aussi Aston Martin, qui avait fait une énorme pas en avant par rapport à 2022, l'année dernière. Alpine, aussi en pleine reconstruction, avec nos deux Français, Ocon et Gasly. C'est bien évidemment les trois gros, Ferrari, Mercedes et Red Bull, qu'on attend le plus. On espère quand même plus de variété de vainqueurs que la saison dernière. Petite chose quand même assez marrante que j'ai noté, Red Bull, qui a dominé la saison dernière, a repris un concept aérodynamique de Mercedes de la saison dernière. Donc un concept aérodynamique, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme de la voiture pour que la voiture aille plus ou moins vite dans certains circuits. Donc ce même concept qui ne marchait pas chez Mercedes, ben Red Bull ils l'ont pris. Et ce serait drôle de voir que Red Bull ait réussi à exploiter ce concept pour peut-être encore plus dominer le championnat, ce que personnellement j'espère pas. On le rappelle, prochain Grand Prix, ça débute la semaine prochaine. On en parlera, ça c'est sûr. Vous allez avoir affaire à deux tifosi, à deux fans de Ferrari.
Non, vous ne rêvez pas. Les essais sont là, donc attachez vos ceintures parce que c'est le retour de la F1. Peut-être qu'on verra cette année une saison sans domination nette de Max Verstappen. Moi, j'y crois pas trop. Mais on sait que Red Bull sera toujours prétendant au titre. Et juste en voyant les nouvelles livrées masterclass de Ferrari qui rappellent un peu des traits à la Flash McQueen, pour les connaisseurs, et celle de Mercedes qui désormais donne un sens à son surnom Flèche d'Argent, j'ai juste hâte que cette saison commence, hein, mais vraiment. Parce qu'en tant que tifosi de Ferrari, on attend les performances de Charles Leclerc, Il Predestinato, c'est le surnom donné par les fans italiens, c'est un peu comme le prédestiné, l'élu, si vous préférez, et Carlos Sainz, Smooth Operator. Mais je pense que Carlos Sainz a déjà été pris par surprise suite au transfert d'Hamilton chez Ferrari, et je pense qu'il va régler ses comptes avec l'écurie par rapport à ça. Puisque, en effet, il y avait une rumeur sur la prolongation de son contrat avec Ferrari avant que la bombe Hamilton explose.
Effectivement, on va suivre ça de près chez les Flèches d'Argent comme chez Ferrari, parce que ben, en interne, ça va forcément s'effriter. Carlos Sainz qui ne va pas avoir toutes les infos de la voiture dans l'année prochaine, Hamilton aussi. On va peut-être avoir aussi une rivalité des deux s'ils arrivent à se rencontrer sur la piste. Ça va être en tout cas très intéressant. Moi, je crois encore à une domination de Red Bull quand même, vu comment ils étaient en avance, même en fin de saison. Ce sera intéressant de voir la deuxième, troisième, quatrième place. C'est là où il faudra s'intéresser à la F1 parce que je pense que le vainqueur ne changera pas cette année.
Non, moi j'y crois pas trop.
Bon, il faut bien une défaite du Phoenix. Malheureusement, face au mal classé Ivry, défaite évitable selon les mots de la dépêche. Le Phoenix qui s'éloigne donc du podium occupé par un Paris Saint-Germain. Invaincu depuis le début de saison, suivi par Nantes 2e et Montpellier 3e qui clôture ce podium de D1 de handball. On ne perd pas espoir quand même du côté toulousain, mais cette défaite, c'est vrai qu'elle casse un peu la dynamique et puis surtout que Ivry bah, est situé dans les bas de classement et donc c'est un peu dommage de perdre contre cette équipe.
C'est vrai que c'était un match serré, mais le Phoenix restait favori. C'est frustrant quand tu perds contre un adversaire moins bien classé que toi et qui t'a en plus donné du fil à retordre. Mais à la 60e minute, donc fin du match, le but d'Ivry a assommé les espoirs du Phoenix de revenir au score. C'est une défaite, oui, mais la saison n'est pas finie. Parce qu'on est quatrième de Star League, synonyme de qualification pour la EHF Ligue Européenne. On va se rattraper contre Dijon, je pense, vendredi, pour au moins maintenir notre qualif pour jouer l'Europe la saison prochaine. Il y aura aussi les demi-finales de la Coupe de France contre Nantes, le dauphin du PSG.
En effet, Alexandre, comme tu l'as dit donc, rien n'est perdu pour nos joueurs du Phoenix. Voilà, c'était tout pour cette chronique de temps additionnel. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous de confectionner ces émissions avec Alex. Merci à l'équipe de nous accueillir encore une fois. Et merci à vous de nous écouter chaque semaine.
Un grand merci à Radio Esprit Occitanie. Et comme t'as dit, Raph, c'est toujours un plaisir de discuter et d'analyser avec toi.
N'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, pour réagir et mettre vos avis sur nos podcasts. C'était Raph et Alex pour temps additionnel sur Radio Esprit Occitanie.
À la semaine prochaine.